Il est 18h sur les ondes de Radio U, la campusienne brestoise. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Émission spéciale, nous avons posé nos micros, notre plateau radio aujourd'hui, vendredi 10 février, au Centre d'art contemporain 41 rue Berthelot à Brest, dans le cadre du Festival Astropolis pour son édition hivernale. Bonjour, c'est Ronan, je suis accompagné d'une équipe de journalistes qui connaissent bien les musiques électroniques, Charline, Jean, Joshua et Vincent à la réalisation. Bonjour à vous tous.
Salut Ronan.
Salut.
Salut, salut. Astropolis revient avec 5 jours d'exploration sur les musiques électroniques et une quarantaine d'artistes du 8 au 12 février. Ça a commencé un petit peu plus tôt dans la semaine. Ce soir, nous allons vous proposer 2 heures de direct avec au programme des interviews, des infos sur la programmation, des découvertes musicales et plusieurs captations live sur le plateau Radio U, Radio Campus. Nous allons recevoir Patrick pour Vive la Fête, un événement festif qui s'est passé en milieu de semaine. C'était mercredi, entre musique électronique et handicap. Les disquaires, alors au choix, on aura ou Phono, ou Volvi, ou Get Down, ça dépend lequel va arriver le premier. Bon, on a une petite idée déjà. On va recevoir aussi Midnight Totem, Ilis. Mais pour commencer cette émission, nous allons ouvrir avec Loïc Le Gall, directeur du Centre d'art contemporain Passerelle. Bonjour.
Bonjour.
On reçoit aussi également Gildas Rioualin, cofondateur et programmateur du Festival Astropolis. Bonjour Gildas.
Bonjour.
Bienvenue sur notre plateau à Radio Campus, ici à Brest et un petit peu partout en France. En ce moment, on peut nous écouter. Alors Gildas, je pense que c'est pas une impression, mais c'est Astropolis l'hiver. C'est un format avec plus d'actions culturelles, de masterclass, de rencontres, d'ateliers autour des musiques électroniques que sa version été.
Complètement. L'été, on est surtout là pour faire la fête, en fait. Et maintenant, c'est vrai qu'au sein de l'équipe d'Astropolis, on développe beaucoup ce qu'on appelle l'action culturelle. C'est un peu les parties cachées, souvent des organisations, hein, des associations. On voit souvent le spectacle, l'événementiel, mais derrière, il y a aussi beaucoup de travail, souvent de terrain, auprès de publics différents, hein, aussi bien scolaires, dans les maisons de quartier, du public en situation de handicap également. Mais c'est vrai qu'on apporte aussi bien de l'animation, mais aussi de l'éducation et aussi de la culture, surtout et avant tout. Et là, ça fait une petite semaine qu'on est beaucoup sur le terrain. Mais aujourd'hui, l'association, on va dire, développe vraiment toute l'année l'action culturelle. Maintenant, on a un projet vraiment étalé sur l'année. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à tout regrouper sur l'édition d'hiver, mais c'est très intense. Et on travaille beaucoup plus sereinement, finalement, durant l'année avec les différentes structures. Ça nous permet d'échelonner un peu nos représentations et puis nos rencontres. Et puis, du coup, la plupart des petits événements, ben là, dont tu parlais tout à l'heure de Vive la Fête, par exemple. Patrick sera là pour expliquer tout ça tout à l'heure. Mais voilà, on a pu faire des préparations avec des personnes handicapées, leur apprendre à mixer, leur apprendre ce qu'était la culture des musiques électroniques. Certains ont fait aussi de la vidéo, du VJing. Et justement, ça permet ensuite de présenter tout ce travail établi en amont suite à différentes rencontres dans le cadre d'une fête, un peu comme une fête à la carène. C'est-à-dire, il y a un light show, il y a de la vidéo, il y a de la musique, il y a une adrénaline festive avec tous ces centres qui viennent un peu partout dans le Finistère. Mais il y a vraiment un gros travail en amont, quoi. Mmh. Et puis, l'objectif, évidemment, c'est de réussir à passer ce savoir et cette culture des musiques électroniques, qu'ils apprennent à la connaître.
Ces actions culturelles sont aussi l'opportunité de resserrer des liens avec les acteurs locaux, donc culturels, sociaux,
ouais,
éducatifs.
Et puis des acteurs surtout différents. Ce sont des rencontres, hein, comme on peut faire justement aussi avec Passerelle. Tu peux en parler, Loïc, peut-être, parce que tu accueilles énormément d'acteurs culturels ici, dans Passerelle, souvent.
Oui, tout à fait. C'est vrai que Passerelle, c'est un centre d'art contemporain. C'est notre mission de base. C'est pour cela qu'on a été créé. Mais on est aussi sur le territoire brestois, un lieu qui accueille énormément d'événements, d'associations très divers, depuis de la danse à du théâtre, de la poésie, à des festivals de musique comme Astropolis, qui est un partenaire régulier depuis de nombreuses années maintenant, et avec qui on travaille de manière excellente, en bonne entente, et on
est
dans
le vide exactement toute l'année.
En fait, ce qui nous fait kiffer en tant qu'acteur culturel, c'est justement croiser les publics, croiser les générations. Par exemple, hier soir, il y avait un spectacle en Macorlan qu'on organisait avec le Quartz, Counter Star With You. Ben, le public était complètement divers, quoi. Il y avait des personnes plus âgées, des rêveurs, des enfants qui avaient dû avoir leur petit cadeau de Noël avec leurs grands-parents. Voilà, c'est ça qui est assez excitant finalement aussi, c'est de faire découvrir notre culture des musiques électroniques par le biais d'autres cultures et de croiser les publics, quoi. Brest est assez reconnu pour ça. J'ai pas mal de d'artistes ou bien d'organisateurs qui viennent un peu partout, hein, le week-end qu'on organise des fêtes. Et ça fait de longues années qu'ils nous disent qu'il y a cette ambiance vraiment particulière. Et c'est vrai qu'on a tendance à essayer de travailler ensemble plutôt que dans certaines villes parfois à se tirer dans les pattes. Voilà, donc on est à la pointe, on est au bout du bout. Après, on se noie ou alors on part aux États-Unis ou alors on s'arrête à Ouessant si on a du bol, quoi. Avec des courants, mais c'est vrai que voilà, c'est ce qui fait peut-être un petit peu l'identité brestoise. C'est ce qu'on dit souvent, hein. Moi, maintenant je l'ai adopté, hein, parce qu'on me le dit, mais en tout cas, c'est une analyse de l'extérieur. En tout cas.
Non, je voulais juste savoir, c'est combien de temps de préparation à Astropolis d'hiver ?
Alors, je compte plus vraiment le temps, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, je terminais l'été, je pensais à l'hiver, et puis aussi je me remettais la tête dans l'été. Maintenant, rien que le festival l'été à peine terminé, je reçois déjà des mails pour l'été suivant, voire certains voient même l'été encore après. Moi, je mets en général le haut là, quoi, parce que moi, je vois, à part déjà 6 mois, c'est beaucoup pour moi.
D'accord.
Donc, non, mais en fait, c'est vraiment étalé durant l'année et on travaille, nous au sein de l'Astropolis, on travaille assez collectivement au bureau, aussi bien sur la programmation que sur les idées, de travailler avec d'autres partenaires. Donc voilà, on aime bien laisser mûrir les choses aussi. Parfois on est un peu long et puis d'un coup on se réveille et puis on y va à fond. Mais c'est notre façon de travailler et on la sent très bien comme ça, quoi.
Ça fonctionne.
Alors d'après un classement que moi j'ai lu dans le magazine Tsugi, tu fais partie des 100 personnalités qui font bouger la musique en France.
Wow. Oh,
deviendrais-tu influenceur, Gildas?
Mais complètement.
On en discute.
Évidemment. Je te dirais même pas tous les pseudos que j'ai sur les réseaux sociaux.
Je ne veux même pas savoir. Garde ton secret.
Ouais, non, c'était... évidemment, c'est je dirais pas réjouissant, mais bon, c'est sympathique de voir son visage apparaître. J'étais pas au courant, en plus.
Il y a d'autres Bretons.
J'étais pas au courant. C'est Jess qui leur a balancé la photo sans m'en parler.
Donc,
je l'ai découvert en achetant le magazine. Mais oui, donc après, c'est parmi les 100 et il y en a bien plus de toute façon, quoi. C'est vrai que c'est
difficile de faire le choix.
Voilà. Après, c'est les personnes qui sont sur le Tsugi. C'est vrai que ce sont des personnes qui appartiennent à un réseau où on travaille assez régulièrement ensemble. On a tous des rapports ou des mails à un moment durant l'année qu'on peut se faire ensemble. Donc c'est un peu le réseau Tsugi aussi, on va dire, quoi.
Tu es patron de label, agence de booking, cofondateur d'Astro. C'est quoi la prochaine étape ?
Éditeur également.
On a
une boîte d'édition également. Et puis après, la prochaine étape, on va dire qu'on va continuer à maintenir ce cap et le faire de mieux en mieux si on peut, parce que c'est beaucoup de travail. On n'a pas le temps de développer toutes ces activités aujourd'hui de manière sereine. On n'est pas très nombreux au bureau. Donc l'accompagnement, c'est 1-2 artistes par an, pas plus. Le tourneur, on reçoit énormément de propositions, mais on les refuse parce que être tourneur, c'est aussi quelque part accompagner un artiste et faire en sorte qu'il puisse bouffer et avoir un salaire à la fin du mois. Donc c'est aussi beaucoup de stress parce qu'il faut trouver des dates, faut le créer une dynamique pour qu'il y ait aussi des morceaux qui sortent, des albums, pour qu'il y ait du média, pour qu'il puisse trouver d'autres dates. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas sur la vente de disques qui vit cet artiste-là, c'est sur la représentation et c'est sur les événements. Donc, c'est quand même beaucoup de pression et j'ai pas trop envie de m'en rajouter désormais. J'ai plutôt envie de continuer à développer toutes ces activités aujourd'hui.
Tout ce qui est en place déjà aujourd'hui.
Ouais. Sublimer.
Voilà, exactement.
Et donc tu as ajouté éditeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'édition en musique ?
Moi, en fait, après, je suis un éditeur un peu spécial aussi, hein, parce que j'ai créé vraiment cette société d'édition de manière à ce que les artistes puissent récupérer leurs droits SACEM. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un concert, une soirée, ou bien même à chaque fois qu'on entend une musique quelque part, que ce soit dans un ascenseur ou dans un supermarché, eh bien, on doit payer une cotisation SACEM. les artistes peuvent déclarer leurs morceaux à la SACEM et lorsque leurs morceaux sont passés, ils doivent normalement récupérer des droits que tous les organisateurs ou bien alors les magasins ou bien enfin voilà, tous les propriétaires qui passent de la musique en public payent à la SACEM. Et j'avais remarqué que finalement, sans éditeur, énormément d'artistes le faisaient mais n'avaient aucun retour, ne touchaient absolument pas leurs droits. J'ai mis mon chapeau et mon masque de Zorro pour récupérer déjà les droits des artistes que j'accompagnais, parce que c'est un gros manque à gagner. Pour eux, c'est vraiment la possibilité d'acheter des machines pour travailler. Et puis, sans éditeur, finalement, souvent, la SACEM rend pas les comptes. Et encore même avec l'éditeur, aujourd'hui, c'est très difficile. C'est un grand combat. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir, surtout avec tout ce qui s'est passé, les 2 ans de confinement, sans concert, ces droits SACEM, pouvoir récupérer des droits qui leur est dus, ça leur permettait aussi de survivre un peu plus parce que c'était difficile pour certains, quoi.
Je vais me tourner un petit peu vers Loïc. Passerelle actuellement est fermée au public en raison de montage des expos de la saison printemps. Mais avant, si tu veux, Loïc, j'aimerais bien qu'on discute aussi pour nos auditeurs, qu'on présente le lieu Passerelle, le centre d'art contemporain.
Ah oui, bien sûr.
Sans histoire.
Je vais éviter de faire un cours d'histoire hyper boring. Un petit peu rapidement, en fait, il y a deux histoires. Il y a une histoire du bâtiment lui-même, qui est un bâtiment qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale, puisque Brest a été détruit, comme vous le savez sûrement. Des travailleurs, en fait, ont eu l'idée de construire un bâtiment pour vendre en direct leur production. Donc entre 1947 et 1955, ce bâtiment est construit, qui est un bâtiment assez typique de la reconstruction en béton compressé, donc précontraint. C'est un bâtiment qui a été construit sous les plans de Eugène Frycinet, qui est un architecte assez célèbre de la reconstruction, comme Perret au Havre, par exemple. Et donc, ce bâtiment avait pour objectif, le but, c'était de vendre directement. C'est un ancêtre du supermarché, en fait. On vendait directement des sortes de halles, un lieu de vente de gros, de fruits et légumes auprès du public. Assez rapidement, le bâtiment a été vendu et c'est devenu, et c'est en cela que le bâtiment est connu, une mûrisserie, un lieu en fait, où on vendait notamment des fruits tropicaux comme des bananes. C'est devenu un hangar à bananes, c'était connu comme ça en fait.
C'est pas une bêtise cette histoire d'hangar à bananes.
Non, c'est vraiment un hangar à bananes comme à Nantes, qui est bien connu.
Sur l'île de Nantes.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Et ce bâtiment, après, a changé de main encore une fois. Il est devenu un entrepôt des magasins But, donc c'est vraiment juste devenu juste un bâtiment quelconque, et il a été abandonné, et c'est un lieu qui est devenu une friche en fait, culturelle, c'est un squat en fait, clairement, et certains musiciens de l'époque brestoise des années 80 sont venus chanter ici, faire des choses, dont un certain jeune de l'époque qui s'appelait Miossec. Mais alors là, vous connaissez mieux l'histoire de la musique que moi. Et là, c'est quelque chose sur lequel je suis pas du tout pertinent là-dessus.
Je vois Gildas hocher de la tête. Il a connu cette époque.
J'ai pas connu cette époque, mais j'en ai entendu parler. Ouais.
D'accord. Okay.
J'aurais bien aimé la vivre.
Mieux c'est que ça nous parle à tous quand même.
Oui, et c'est vrai que du coup, le bâtiment, en fait, ce qui se passe après, c'est qu'en 88, c'est assez simple. Il y a des habitants du quartier qui se disent que ce bâtiment est à l'abandon, il est en mauvais état, et ils décident finalement de le reprendre. Et un collectif se crée et rachète le bâtiment, en fait. Ce qui est assez rare.
D'accord.
Comme initiative
oui,
en France. Ils rachètent le bâtiment et ils décident d'en faire un lieu de culture, un lieu de, a priori, au début pour les arts visuels, mais aussi par extension pour la poésie, le théâtre, etc. Et ce bâtiment, en 91, est cédé à la mairie de Brest contre bon soin, contre le fait que l'association qui avait été créée, qui s'appelle Passerelle, reste dans les murs de Passerelle, en fait, du bâtiment de fruits et légumes. À partir de là, se crée vraiment un réseau professionnel autour des arts visuels, autour de l'art contemporain, avec des expositions dans les années 90, avec les FRAC, qui sont les fonds régionaux d'art contemporain, qui sont des grosses collections d'art contemporain dans les régions, qui venaient donc présenter leur collection dans Passerelle. Et au fur et à mesure, aussi des artistes locaux qui montraient aussi leurs pièces dans Passerelle. Et les briques ont commencé à prendre et ça a construit un vrai lieu de création. Après, il y a eu une direction artistique et un peu l'apogée, c'est en 2017, le Centre d'art est le premier Centre d'art de France à recevoir le label d'intérêt national pour l'art contemporain, en fait.
D'accord.
Donc c'est une vraie reconnaissance pour ce Centre d'art, pour pour finalement tous ces fondateurs de l'art contemporain en région et à particulier à Brest, puisqu'on a encore dans notre conseil d'administration des personnes qui étaient à l'origine du centre d'art. Donc c'est assez beau, l'histoire se poursuit, et l'histoire se continue.
C'est familial un peu, quoi.
Exactement. Donc,
l'histoire se reproduit même, puisque à proximité, on a l'avenir Place Guérin. Oui. Qui n'a pas la même trajectoire, mais le même mouvement de base de s'emparer d'un lieu inoccupé pour en refaire des choses de façon horizontale, de façon citoyenne.
Et collaboratif, tout ça aussi.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est un lieu qui est magique. Alors après, il faut espérer qu'un jour la ville puisse aussi, d'une certaine manière, aider un peu plus ce qu'elle fait aujourd'hui. Mmh. Mais puisqu'en fait, à l'origine, il devait avoir une construction d'une salle de concert, etc. Et c'est toujours... encore problématique avec la relation avec la ville, mais ça c'est toujours la question aussi de l'autogestion et qui n'est pas forcément acceptée par tous les pouvoirs publics aujourd'hui en France.
Vas-y, Charles.
En fait, je voulais savoir, moi, c'était quoi le premier spectacle ou expo, chose comme ça, qu'il y a eu ici? Est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose de marquant dès le début ou...
Bah, dès le début, en fait, surtout, c'est des artistes du coin en fait, qui décident de montrer leurs œuvres. Donc, en fait, il y a des archives de toute cette période-là, mais c'est beaucoup d'artistes maintenant qui ont un petit peu disparu de la surface, okay. En tout cas, qui étaient presque amateurs, en fait. Il y avait cette pratique aussi qu'on pourrait qualifier de semi-professionnels, en tout cas d'artistes qui ne vivaient pas de leur art, en tout cas, ou qui étaient peut-être, je sais pas, profs au collège, ce genre de choses. Et donc oui, on a toute cette histoire qui existe. Et d'ailleurs, actuellement, les centres d'art en France, on a une quarantaine de centres d'art en France, sont en train de réfléchir en fait sur l'avenir de leurs archives et comment est-ce qu'on peut les remettre en avant. Oui, d'ailleurs, j'ai pas expliqué d'ailleurs ce que c'était qu'un centre d'art. Peut-être que je peux vous dire juste deux mots ce que c'est. En gros, un centre d'art, ça a trois missions essentielles. C'est d'abord l'exposition, donc c'est de montrer des œuvres d'art contemporain. Donc ça veut dire à la fois des œuvres lors d'expositions collectives qui sont thématisées ou des expositions monographiques avec un artiste qui vient présenter tout son travail. Ça, c'est la grosse partie que tout le monde voit. La seconde partie qui est un peu cachée, ce que disait Gilda tout à l'heure, en fait, c'est la question de la pédagogie et de la médiation auprès des publics. Mmh. Et donc là, c'est une énorme partie du centre d'art, mais qui est un peu la partie planquée de l'iceberg, finalement. C'est le moment énorme, c'est une grande partie du centre d'art, c'est d'aller dans les écoles, c'est d'aller dans les prisons, c'est d'aller dans un EHPAD, et ainsi de suite. C'est aussi de faire venir le public pour voir des œuvres, des publics handicapés, on a pu dire tout à l'heure, où on est en train de travailler par exemple avec des publics malvoyants, donc comment est-ce qu'on peut regarder une œuvre d'art en étant justement non-voyant. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se créent, en fait, qui ne sont pas visibles et qui sont extrêmement importantes dans un centre d'art. Donc ça, c'est la deuxième mission, c'est vraiment comment transmettre le goût des arts visuels et le goût de la création contemporaine. Et la troisième, c'est la production, donc c'est l'accompagnement des artistes à la création de leurs œuvres, essentiellement dans le cadre de résidences. Donc les résidences, c'est où on accueille des artistes, on les rémunère, on leur donne un logement, on leur donne une bourse de production, etc. Et donc on les accompagne à la fois d'un point de vue critique, d'un point de vue technique sur leur production, mais c'est aussi les aider dans le cadre de leur exposition dans le centre d'art, et c'est comment est-ce qu'on construit des œuvres d'art ensemble.
C'est top, ça.
Ouais, c'est beau.
Sur quel événement on va pouvoir te retrouver, Loïc, pour Astro? Où est-ce que tu vas aller traîner? Tu
peux nous raconter. Je vais sûrement aller à la Carène ce soir.
Très bon choix.
Oui, alors après, moi je suis un consommateur de musique, je dirais. Je vais voir beaucoup de musique, beaucoup de concerts, mais je suis très nul pour retenir les noms. Et donc, en fait, je vais être assez pathétique et je vais être un peu honteux à dire je vais aller à la Carène. Mais en fait, je ne sais pas vraiment ce que je vais voir, mais c'est bien en général.
Mais c'est la surprise,
fais-nous
quoi.
Confiance.
Ouais, c'est ça.
Exactement,
ça fait confiance.
Oh oui, puis moi, j'ai un souvenir de toi à la Carène. Je ne sais plus si c'était l'année dernière, mais tu avais l'air de bien t'amuser, en tout cas.
Oh, bah, je pense que Loïc, c'est toujours.
On te surveille, Loïc.
Pour bien s'amuser.
Là, en fait.
Mais oui. Tu es connu, Loïc, sur Brest, ne t'inquiète pas.
Au secours.
Bon, merci, on ne va pas vous déranger plus longtemps que ça, parce que vous avez aussi, vous, des choses ce soir. Oui, tu veux les rajouter quelque chose?
Je voudrais juste vous inviter le 16 février, on a un vernissage à Passerelle entre 18h et 21h, sur les nouvelles expositions.
Okay.
Et donc, on serait ravis de vous recevoir tous autour de Prendre corps au monde, qui est une exposition qui rassemble 8 artistes autour, on va dire, d'une thématique... autour du féminisme, de l'écologie, notamment aussi de la mémoire coloniale, donc qui lie un peu tout ça, et aussi de la monographie de Emma Seferian, qui est une toute jeune artiste du territoire qui vient de Brest en l'occurrence, et qui présente un beau travail, notamment sur son rapport à l'Arménie, sur le rapport du travail manuel, en fait.
Ah, ça peut être intéressant. On note, Ronan.
Oui, et je crois que c'est dans le cadre de Danse Fabrique.
Tout à fait, c'est un partenariat aussi avec Danse Fabrique, puisqu'on aura aussi des pièces qui sont présentées à Passerelle durant le festival.
Dernière question et après on vous lâche. Gilda, un petit mot sur les victoires de la musique ce soir. J'allais pas te laisser partir sans ça.
Je connais vraiment personne de nominé ce soir en fait. Aux
si je pense qu'il y en a un que tu connais, c'est Jacques.
Ah non, je vois pas qui c'est. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution quand même. Quoi. Je crois que. Il mériterait d'avoir un peu plus de développement, de découverte, plutôt que retrouver les artistes qui sont déjà dans la matrice et qui sont plus que dans la matrice aujourd'hui, qui sont reconnus, certains ont du talent, chacun ses goûts, il n'y a aucun problème. Mais d'être nominé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois,
c'est subjectif,
fois,
hein, moi je dirais.
Pour certains, ça ne sert à rien, ils ne coûteront pas plus cher, ils sont déjà très chers. Ils ne joueront pas plus parce que leur calendrier est déjà plein, donc next quoi. Au suivant.
Merci Gilda, merci Loïc.
Merci.
Bonne soirée, bon festival du coup aussi, hein, profitez bien.
Profitez.
Bonne soirée,
amusez-vous.
Bonne soirée.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Vous êtes bien sur Radio U, on est ensemble jusqu'à 20h pour cette édition hivernale d'Astropolis à Brest. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite pause en écoutant le direct, le live de Midnight Totem. C'est Morgane en fait derrière ce blaze qu'on connaît bien, on en parlera tout à l'heure avec elle.
On en parlera tout à l'heure, exactement.
Voilà, on vous propose de faire un petit break avec elle entre 5-10 minutes et puis on revient juste après. Restez bien avec nous.
Le temps d'une bière.